Vous écoutez France Musique.
Bonsoir Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et on vous retrouve la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin c'est impossible. Le tennis c'est pas ça.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Amis du parti d'Anjouer, à l'oreille bien aiguisée pour entendre la parole des musiciens pas encore vieux, qu'on appelle donc par défaut les jeunes. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches soirs. L'heure est aux confidences et nous, on gamme et aux guirlandes de réponses toutes faites. D'ailleurs, ce soir, plus qu'un autre soir, le parti d'Anjouer force un petit peu le trait des hypothèses, équations et formules mathématiques aussi belles graphiquement que déconcertantes du point de vue du raisonnement. Mais c'est pour mieux coller à notre invité, le violoniste Julien Schulman. Bonsoir à lui et bienvenue au parloir.
Dis-moi !
Tell me !
Connais-tu l'animal ?
Do you know the beast ?
Qui inventa ?
Who discovered ?
Le calcul intégral !
Integral calculus !
Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral ? Est-ce Leibniz ou bien Newton ou bien est-ce que c'est moi qui déconne ? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour ? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape, c'est les courbatures ? Moi, j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Il y en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait Chipette.
Oh, Thermi,
dis-moi.
Eh oui, bienvenue dans le parti d'Anjou avec vous, Julien. Alors, j'ai écorché votre nom de famille, hein, c'est Julien Schulman.
Schulman.
Schulman. Alors, S-Z-U-L-M-A-N. Bonsoir à vous, Julien.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Ça va, très bien.
Alors, je le disais, mon parti d'Anjou est teinté aussi de... vous êtes violoniste, quel âge avez-vous ?
28 ans.
Teinté de mathématiques, parce que c'est aussi quelque chose qui, à un moment de votre vie, a été assez important.
Absolument. Je veux dire, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai vraiment mené les deux cursus en parallèle. J'avais des parents professeurs de mathématiques, et donc j'ai vraiment baigné dans les mathématiques toute ma jeunesse. Puis je pense que j'étais assez doué, donc j'ai eu des prix au concours général, par exemple. Et puis j'ai quand même suivi, en même temps que le CNSM de Paris, une faculté de mathématiques en parallèle, parce qu'on ne savait jamais ce qui pouvait arriver. Voilà, donc j'ai eu ma licence, et puis bon, après... À la fin de mes études conservatoires, j'ai quand même décidé de me consacrer entièrement à la musique.
Et alors, on va souvent vers ce qui est facile dans la vie et dans la musique ?
Non, je ne pense pas que la notion de facilité était là. Disons que non, c'était une réflexion que j'ai eue assez longtemps entre mes deux passions, parce que c'était vraiment des passions. Disons que j'avais l'impression que les mathématiques me refermaient nettement plus sur moi-même, bien qu'il y ait des échanges avec d'autres mathématiciens, mais en tout cas, la musique me permettait quand même plus de communiquer, d'échanger. Donc au bout d'un moment, c'est vraiment ça qui m'a plus intéressé. C'est-à-dire que les mathématiques, j'avais quand même une pratique assez solitaire des choses, étant donné que comme je ne pouvais pas vraiment assister aux cours de la faculté, je faisais tout à la maison. C'est quand même une discipline où on peut, avec un livre, s'évader dans des mondes très intéressant, mais on reste quand même très, très seul. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Et alors qu'en musique, de partager avec d'autres collègues, quand même, cette relation avec le public était quand même nettement plus évidente, quoi.
Alors, vous habitiez Paris jeune, avant de déménager à Tours avec vos parents. Et puis alors, dans l'appartement d'à côté, je ne sais plus si c'était au-dessus, à côté, à droite, à gauche ou en dessous, il y avait un voisin violoniste.
Voilà, donc ça, c'est pas quand j'étais à Paris, c'est les hasards... On avait un voisin au-dessus, violoniste, qui faisait ses gammes tous les matins, qui était très sérieux. Et Antoine Goulard, c'est lui qui m'a débuté au violon, apparemment. Moi, je ne m'en rappelle pas, mais quand j'avais 4 ans, je l'ai rencontré dans l'escalier. Et je lui ai dit « Ah, mais j'aimerais bien faire du violon ». Il m'a dit « Bon, bah... »
Ça partait de vous, alors ?
Ouais, apparemment. Après, c'est peut-être des légendes qu'on a Moi, j'ai pas ce souvenir, mais en tout cas, c'est lui qui m'a débuté à Paris, puis après, on est allé à Tours.
Et qui était donc élève?
Non, c'était l'assistant de Christian Ferras.
Dont on parlera juste après ça. Bienvenue dans le Parti d'en jouer, si vous nous rejoignez, Parti d'en jouer avec Julien Zulman et cette berceuse de forêt interprétée par Christian Ferras avec Ernest Luche au piano. J'aimerais savoir, Julien Zulman, qu'est-ce que cela vous fait de réécouter, parce que vous allez me dire pourquoi, quel attachement vous avez à Christian Ferras, mais j'imagine que vous l'avez beaucoup entendu, réécouté, cette musique. Mais qu'est-ce que cela fait de la réentendre en essayant de se projeter comme si c'était la première fois?
Ça, c'est toujours difficile, mais en plus, surtout quand on a baigné dans cette culture du phrasé, du son, de en plus cette musique française. Mais je trouve, quand on écoute ça, on a du mal à penser que Christian Ferras avait 14-15 ans quand il enregistre ça. C'est l'un de ses premiers enregistrements. Il y a déjà une maturité musicale, une façon de phraser, une sonorité tellement personnelle et tellement expressive. Enfin, moi, ça me touche beaucoup. J'étais un peu parti.
Alors, vous nous parliez de votre voisin à Paris, Antoine Goulard, qui était assistant de Ferras au Conservatoire de Paris, qui vous donne vos premiers cours. Alors, j'imagine qu'il y a déjà une manière de faire sonner l'instrument.
Ça, je n'ai pas vraiment les souvenirs, parce que j'ai commencé à 4 ans et demi, donc ce serait présomptueux de dire que je me rappelle exactement. Mais ensuite, quand on est allé à Tours, il nous a conseillé donc, Gilles Lefebvre, qui avait été un de ses élèves au CNSM, qui était dans la classe de Ferras, qui était vraiment un des élèves très proches de Ferras, et qui, lui, m'a vraiment, pendant toutes mes études à Tours, m'a vraiment transmis cet enseignement qu'il avait reçu de Ferras, cette chaleur, cet amour de la musique, cette façon de phraser, où vraiment on n'était que musique. Quoi. Après, c'était vraiment l'enseignement porté essentiellement là-dessus. Et ça, même maintenant, en fait, je pense que c'était vraiment entré dans mon ADN, même sans s'en rendre compte.
Et à quel âge créez-vous l'association des amis de Christian Ferras?
Alors, disons que quand j'avais 12-13 ans, je me suis mis à m'intéresser à la vie de Christian Ferras. À l'époque, il y avait vraiment très très peu de choses qui existaient. Donc j'ai fait pas mal de recherches, à peu près à mon humble niveau, c'est-à-dire à la bibliothèque de Tours, et puis en envoyant des lettres un peu à droite, à gauche. Et puis finalement, je suis rentré en contact avec un ami, enfin, qui est devenu ami par la suite, suisse, Thierry Tchoudens, qui était en train d'écrire une biographie. Donc j'ai un peu aidé en trouvant des photographies, tout ce que j'avais fait. Et puis après que le livre soit paru, on a décidé de créer ensemble l'association, et puis dans l'intervalle, j'avais fait un site internet, associationferras.com maintenant, mais qui permettait d'avoir des ressources documentaires, parce que bon, c'était le balbutiement d'internet, mais il n'y avait rien sur Christian Ferras. Maintenant, par exemple, cet enregistrement qu'on vient d'entendre, à l'époque, donc ça fait une bonne dizaine d'années où je recherchais des enregistrements, ça, c'était absolument introuvable. C'était un 78 tours. J'ai réussi grâce à eBay à mettre la main dessus l'année dernière, et puis c'est ressorti chez des gramophones. Mais
il y a des choses vraiment... dont vous savez qu'elles existent à l'enregistrement, mais que vous n'avez pas encore trouvées ou pas,
hein? Disons qu'il y a beaucoup de concerts, en tout cas live, qui existent dans les archives même de Radio France, dont on n'a aucune trace. Et puis il y a des... Maintenant, presque tout est sorti quand même, surtout avec... Il y a eu un gros travail avec EMI et des gramophones. Il y a beaucoup de live, il y a des choses qui n'ont pas été éditées, on ne sait pas pourquoi. Il y a un concerto de Prokofiev avec Georges Prête qui n'est pas sorti non plus. Globalement, là, enfin, de la discographie que j'avais et que je recherchais il y a une dizaine d'années, presque tout est sorti, donc c'est une très bonne chose.
Le deuxième mouvement de la fantaisie brillante sur le thème du Faust de Gounod, Henri Wieniawski avec Patrice Fontanarosa, l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Emmanuel Krivine, dans le Parti d'Anjou avec vous, Julien Zulman. Alors, Patrice Fontanarosa, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, que vous rencontrez au CNSM de Paris.
Voilà,
quand vous avez 16 ans, c'est ça, 15 ans?
Je l'avais rencontré au cours de stage avant, quand j'avais 14 ans, et puis après je suis rentré dans sa classe il y a 16 ans au conservatoire, et puis c'était vraiment très agréable de travailler avec lui, une grande générosité. Les cours, c'était que la musique, il n'y avait aucun dogme d'aucun type, une grande gentillesse, et puis une façon de vraiment faire rayonner son instrument et la musique pour le donner aux gens, et puis avec quand même des couleurs, des intentions musicales, enfin, très, très fines, et en même temps, quand même, il laissait la part à chaque élève de s'exprimer selon ses capacités, ses moyens et ses envies. Enfin, c'était vraiment...
Est-ce que la part de la personnalité d'un musicien transparaît dans son jeu? C'est-à-dire que quand vous écoutez Patrice Fontanarosa, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que c'est souvent le cas? Ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, voire même que les choses vont iraient à contrario?
Pour Patrice Fontanarosa, je pense que... Enfin, moi, en plus, comme je le connais bien et que j'ai été quand même nourri de son au cours, je pense que je pourrais à peu près le reconnaître. Mais, et puis je pense que ça participe, lui, et comment il joue et sa personnalité vont vraiment bien. Enfin, c'est vraiment la même personne. Après, je pense qu'il faut se garder de faire des conclusions hâtives, parce qu'on a des choses enfouies en nous-mêmes qu'on n'a pas forcément envie de sortir, que ce soit conscient ou pas dans la musique qu'on fait.
Alors, quand vous avez une vingtaine d'années, je crois que vous passez le concours Lantibo.
Voilà.
Vous arrivez cinquième prix. C'est une sacrée expérience parce que vous arrivez en finale pour jouer le concerto de Berg, que vous n'avez travaillé qu'avec piano. Vous avez un orchestre derrière, c'est la première fois.
Oui, bon, disons que j'avais eu des expériences d'orchestre au cours de concours précédents, mais disons que c'était moins important que celui-là. Et puis c'est vrai qu'avec M. Fontanarosa, on préparait les concours. C'était plus pour se donner une échéance, le travail... voilà, d'une année. Et puis bon, là, c'était quand même... Christian Ferras a été lauréat du concours. Enfin bon, pour moi, c'était quand même...
En 1949, je crois. Ouais.
Et donc, c'était vraiment un rêve. Et moi, je le faisais pas du tout dans un objectif de gagner ou aller en finale. Donc, c'est vrai que quand je fais ma demi-finale et que je vois que je suis en finale, c'est vraiment très inattendu. Disons que la préparation de la finale n'a pas été optimale aussi, parce que j'étais tellement angoissé des tours précédents que c'était le plus important à mes yeux. Et donc c'est sûr qu'on se retrouve à jouer avec l'Orchestre National, un gros studio, le concerto de Berg, quand même pas le plus facile à mettre en place avec l'orchestre. On commence à être un peu angoissé, mais voilà. Après, il faut... Finalement, ça s'était pas mal passé, hein, mais... C'est toujours quand même très impressionnant. Et puis en plus, à l'époque, comme j'avais vraiment les deux cursus en parallèle, enfin voilà, aussi le fait de faire deux choses, on ne se dit pas que dans une, ça va marcher magnifiquement. Hein. C'était aussi... Donc voilà, non, c'était une très, très belle expérience.
Thank you. Le 9e contrepoint de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, Pierre Laurent Aymar, qui a été votre professeur, non pas de violon, mais enfin quoique, au CNSM, professeur de musique de chambre, Julien Zulman, vous êtes avec nous dans le parti d'en jouer. Alors c'est intéressant parce que quand même, avant de parler de Pierre Laurent Aymar, vous me disiez tout à l'heure, en parlant du concours Lontibault, quand on a deux choses, finalement, il y en a une qui tombe, c'est pas si grave. J'ai l'impression que c'est un peu une vérité pragmatique qui est presque dans les gènes de la tradition familiale, puisque quand on s'est rencontrés pour préparer l'émission, vous me disiez, bah voilà, c'est quand même une époque, quand j'avais encore 18, 19, 20 ans, on me disait, bah si tu te coupes une main, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne fais que du violon, qu'est-ce que tu vas faire s'il y a un problème? Et vous rebondissiez en me disant, mais bon, j'enseigne aussi, j'ai des élèves qui ont une vingtaine d'années, et qui, selon, bon, pour des raisons différentes et personnelles, mais savent à 20 ans qu'ils ne veulent faire que ça. Et qu'il y a toujours quelque chose qui est, pas bizarre, mais qui questionne en tout cas le rapport qu'on peut entretenir et avoir très tôt avec son instrument et la pratique de la musique.
Oui, tout à fait. Enfin, disons, moi, comme j'étais dans une famille où il n'y avait vraiment aucun musicien et que des professeurs de mathématiques, c'est vrai que le travail de la musique, en termes juste économiques, était complètement inconnu. Mmh. C'est-à-dire quel métier on peut avoir, quel débouché, enfin, l'insertion professionnelle, tout ça était quand même inquiétait assez mes parents, je dois dire.
Et vous l'étiez inquiet par rapport à ça?
Non,
ou pas?
J'ai jamais été très inquiet en général, mais... Non, mais c'est vrai qu'après, bon, après aussi, quand ça marche bien, quand on a enfin, moi, j'ai mon prix au CNR de Tours à 13 ans, c'était assez... Enfin, pas normal, où on rentre au conservatoire vers 16 ans. C'est vrai que c'est des parcours où on se dit, on fera quelque chose de la musique dans sa vie. Mais déjà, j'avais quand même vraiment une passion pour les mathématiques aussi, et je trouvais que c'était vraiment dommage de l'arrêter. Et puis c'est vrai qu'il y avait quand même cette histoire de si il se passe n'importe quoi, qu'est-ce que je fais à côté, on sait jamais, ou si... un jour à l'autre, le violon, il n'y a plus cette flamme. Au moins, j'avais une possibilité aussi, avec les mathématiques, d'avoir un métier qui m'aurait plu également.
Mais c'est vrai que c'est ce que vous me dites aussi, c'est la tendance peut-être, bon, c'est anthropologique, ou ça dit quelque chose sur notre société aujourd'hui et sur les musiciens, mais la tendance à s'accrocher aux choses aussi, à s'accrocher aux choses qui marchent et à ne pas vouloir les perdre.
Oui, et puis bon, il ne faut pas oublier quand même que le métier de la musique est de plus en plus dur. Moi, je suis dans un orchestre maintenant, je vois quand même que les postes sont souvent gelés, il y a de moins en moins de place pour les musiciens. Il y a beaucoup de gens qui même ont un diplôme du conservatoire qui ont du mal à trouver un métier. Donc c'est-à-dire qu'il faut déjà, à mon avis, une passion très forte pour la musique, et puis être quand même, savoir que ça ne va pas être facile et que de toute façon, ça ne va pas être des conditions de vie forcément agréables tout le temps.
Alors Pierre-Laurent Aymar, professeur de musique de chambre au CNSM.
Voilà.
Vous y travaillez, je crois, il y a un cursus sonate. Cursus sonate.
Oui, alors moi j'ai...
Beethoven avec François Dumont, c'est ça?
Voilà, alors non, j'ai commencé d'abord, c'était en quatuor avec des amis. On a commencé à travailler le quatuor avec lui, c'était vraiment très intéressant. Puis après j'ai fait de la sonate, donc justement avec François Dumont. Et j'avais aussi suivi, c'était le cycle de perfectionnement, on avait le droit de choisir les professeurs qu'on voulait. Donc moi j'avais fait la moitié entre Jean-Jacques Kantorov, Roland de Garoy, les violonistes. Et j'avais demandé à Pierre-Laurent Aymar de me faire travailler des œuvres pour violon seul et des concertos. Et c'était très très intéressant parce que bon, il a une telle vision musicale, une telle culture, une telle clarté de ce qu'il veut entendre. Et c'est très très élevé quand même comme vision des choses. Et il le transmet vraiment très très bien. Et il m'a vraiment appris à aller vraiment au bout des choses, du travail. C'était vraiment, il donnait le goût du travail. Vraiment, on jouait quelque chose comme un texte sacré qu'il fallait vraiment respecter et travailler, lui faire honneur. Moi, j'ai eu vraiment la chance de le côtoyer en cours pendant 5-6 ans en plus, dans des formations vraiment très diverses. Et d'apprécier la richesse de son enseignement au fil des années qui changeait. Enfin, c'était vraiment un grand enrichissement.
Mathématiques.
Une fois 5, 1, une fois 2, une fois 3.
Alors silence, mes enfants, taisons-nous. Dans un parallélépipède rectangle, se déplaçant le long d'une ligne intégrale, solution de l'équation différentielle du second ordre y seconde, plus TCRP, facteur de x, y prime plus s, égale 84, deux homoïdes, dont l'un seulement, l'homoïde grand A, présente une partie cylindrique de longueur grand N plus grand que grand N et dont deux sinusoïdes, dont le rapport des périodes égale pi sur 2 entoure la calotte sphérique, ne peuvent présenter de point de contact de la base sans avoir également un point de rebroussement. L'oscillation de deux homoïdes, tangentiellement à la trajectoire ci-dessus, entraîne le déplacement infinitésimal de toute sphère de rayon infinitésimal tangente à une ligne de longueur petit l plus petit que grand L, perpendiculaire à la partie supérieure de la médiane du plastron de l'homoïde grand A. C'est QFD.
Dans un journal à fascicules, j'ai lu en lettres majuscules qu'on ne peut vivre sans calcul. En ce siècle où les automates sont les grands rivaux des primates, qu'on ne peut plus vivre sans maths. Comme d'ailleurs depuis toujours, quel que soit l'homme et ses recours, on ne peut vivre sans amour. Moi qui tiens fermement à vivre et qui suis lucide autant qu'ivre, j'ai uni le lit et le livre. J'ai rencontré au point critique la femme la plus érotique, une Vénus mathématique.
Julien Zulman est avec nous dans le parti d'en jouer. Alors Julien, l'avez-vous rencontré la Vénus mathématique? Ou est-ce qu'elle continue de vous entourer? Est-ce que vous en ressentez sa présence à la fois dans les maths que vous avez un peu mis de côté, mais aussi dans la musique? Qu'est-ce que... Alors, parce que c'est vrai que juste avant, c'était les frères Jacques qu'on entendait dans une vision assez géniale, quoi, caricaturale, mais formidable des mathématiques. Et en tout début de partie d'enjeu, vous avez utilisé un mot quand même, associé aux mathématiques, ce sont les mondes merveilleux, l'imaginaire.
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est un monde qui existe et que quand on travaille les mathématiques, on a l'impression d'explorer, de découvrir des nouvelles terres et ça donne toujours envie d'en découvrir plus. Et c'est vraiment, enfin, c'est un monde absolument fascinant et qui, en plus, on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Donc, enfin, moi, c'est ma conception. Je pense qu'il y a des philosophes et des mathématiques qui n'auraient pas cette conception, qui considéreraient que c'est une création humaine. Mais, enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment comme ça que je le considérais. Et donc, c'est vrai, et puis c'était très grisant de découvrir soi-même quelque chose. On a vraiment l'impression que c'est nous qui avons découvert la première fois ce pays, alors que c'est absolument pas le cas, mais c'est une sensation très très particulière, quoi.
Bah justement, dans les rapprochements qu'on pourrait faire, les passerelles entre ces deux univers mathématiques et musique, raisonnement et démonstration rapportés à la musique, on pourrait se poser la question de ce que c'est que le concert rapporté à la logique de l'hypothèse. Est-ce qu'il y a des hypothèses en musique, par exemple? Est-ce que ce ne serait pas salvateur de se dire qu'il y a des hypothèses, ce qui permettrait d'être parfois un petit peu plus expérimental?
Je sais pas. Sûr, de toute façon, on est fondamentalement dans l'hypothèse qu'on doit déchiffrer un texte qui a été écrit par un langage spécifique du compositeur, et nous, on se met dans la place et on essaye notre interprétation. C'est une hypothèse sur ce que pensait le compositeur. Donc forcément, après, moi, la relation entre les mathématiques et la musique, je pense que les mathématiques permettent au cerveau d'avoir un certain type de structure. Et donc, par exemple, pour structurer des œuvres, enfin, c'est peut-être pour tout ce qui est analyse, je pense, d'avoir fait des mathématiques permet d'être peut-être plus efficace. Ensuite, je pense vraiment que, enfin, de mon point de vue, c'était vraiment deux choses complètement séparées. C'est-à-dire que... C'est assez complexe.
Parce qu'on en reparlera avec Christian Ferras, justement, avec le Kammerkonzert de Berg, parce qu'on verra justement sur des interprétations dites analytiques, dites qui surfent sur cette sémiologie des mathématiques, etc. Mais pour reprendre un peu les paroles de Guy Béard dans cette Vénus mathématique, il dit à un moment, au tout début, on ne peut vivre sans calcul en ce siècle où les automates sont les grands rivaux des primates. Et alors, moi, ça me questionne sur, justement, ce que les mathématiques pourraient apporter à l'expression musicale. Ou est-ce qu'il faut accepter, justement, que c'est en amont une phase, disons, de construction mentale, la musique est une cosa mentale, une chose mentale, mais que ça s'arrête là, et qu'après, c'est le règne animal, celui de l'instinct, de la musicalité.
C'est-à-dire que... Mais ce n'est pas forcément les mathématiques. D'abord, il y a quand même une beauté mathématique des formules, de cette découverte aussi, mais même des formules. Enfin, il y a des choses, c'est tellement simple, qu'on a du mal à se dire que c'est vrai alors que ça tombe juste comme il faut. Et donc déjà, ça c'est quelque chose qui est très peu répandu, même parmi les musiciens. Moi j'avais pas mal de gens au conservatoire qui ne comprenaient pas comment on pouvait faire les deux choses en même temps, alors qu'il y a vraiment une beauté et quelque chose de très artistique, hein, dans les mathématiques. Et ensuite, c'est-à-dire que de toute façon, la musique, il y a une structure formelle qui est là, quoi qu'il arrive. Alors, je ne sais pas si on peut rapprocher cette structure formelle des mathématiques. À mon avis, ça procède peut-être peut-être les mêmes procédés. Moi, je ne le sens vraiment pas de la même façon. Mmh. Après, c'est vrai que l'instinct, c'est aussi comment on sort de la structure et jusqu'où on en sort et jusqu'où on n'en sort pas. Enfin, c'est toujours cette limite, en fait. Mais pour moi, c'est quand même très différent de ce que j'ai ressenti des mathématiques par rapport à ce que je ressens de la musique.
Alors, ce qu'on va écouter tout de suite, c'est un extrait du tout début de la sonate pour violon seul de Béla Bartók par un très, très grand violoniste, le premier violoniste du Quatuor Juilliard, Robert Mann. C'est un enregistrement absolument génial. Imaginez-vous bien Robert Mann. Robert Mann, c'est le premier violon du magnifique Quatuor Juilliard. Et là, cet enregistrement date de 1946-47. Robert Mann a alors 26 ans et il vient de créer, avec ses trois amis, collègues, le Quatuor Juilliard. Alors, nous sommes avec Julien Zulman dans le Parti d'en jouer. Si on vous fait entendre cela, c'est parce que vous l'avez rencontré, Robert Mann, Julien, dans le cadre de cette fameuse académie en Suisse de Seiji Ozawa.
Voilà, absolument. Donc, disons qu'après le concours Long Thibault, en fait, la directrice de l'académie qui était présente m'a proposé de participer à l'académie à faire les auditions. Donc c'était quelque chose de très angoissant, parce qu'on jouait quand même devant Seiji Ozawa pour participer à son
Concerto
académie.
De Mozart, vous me disiez.
Voilà, Concerto de Mozart et un mouvement lent de Bach. Donc c'est des choses qu'on peut difficilement faire semblant. Donc c'était très impressionnant. Hein, et j'ai eu la chance d'être sélectionné et après de refaire les auditions et de revenir 5-6 années de suite. Et donc il y avait Robert Mann qui était là pour donner des masterclass de quatuor. Et donc chaque année pendant 10 jours, donc c'était vraiment cette académie qui était incroyable. Il y avait aussi Pamela Franck, Nobuko Imai, Sadao Arada qui étaient là, qui nous coachaient. Et donc les masterclass de Robert Mann où tous les élèves se réunissaient, écoutaient tout le monde, où on avait vraiment sa vision de chaque grand quatuor. C'est vraiment là que j'ai découvert déjà le répertoire et puis cette vision d'un violon toujours qui parle. Et puis en plus, il a une telle culture, une telle expérience, parce qu'il a été pendant 50 ans premier violon d'un des plus grands quatuors. Et donc, et il y a 2 ans, en fait, je ne pouvais pas participer à l'académie à cause d'un concours que je voulais faire pour entrer dans l'orchestre. Et donc, j'ai proposé, comme la sonate de Bartok, c'était une œuvre que j'avais beaucoup travaillée. J'ai fait toute une tournée avec les Jeunesses musicales de France où je présentais l'œuvre aux enfants. C'était très intéressant. Ah oui.
Qu'est-ce que vous disiez, par exemple, sur ce tempo di Chacon à
Bah non, on essayait d'expliquer la notion de danse avec la fugue du second mouvement. On leur montrait que c'était une fugue, on les faisait chanter. Enfin, il y avait des directions, c'était très très intéressant. C'est pas toujours facile parce que j'étais tout seul en scène avec la sonate de Bartok, mais en même temps c'était très très enrichissant, puis ça m'a permis aussi de le jouer assez en concert. Donc je l'ai étudié donc avec Pierre-Laurent Aymard, avec Claudia Blarer par exemple, avec beaucoup de gens. Et là, comme Robert Mann, je savais que c'était lui après Menuhin qui avait vraiment popularisé
la. Ah oui, parce que c'est 44, donc il livre cette œuvre-là à Menuhin qui la commande.
Voilà, Bartok. Et puis ensuite Robert Mann avait vraiment popularisé cette œuvre, et donc. J'ai profité un peu du fait que je ne pouvais pas être à l'académie entièrement, mais en même temps, j'avais vraiment envie d'y participer. Puis, enfin, ils ont réussi à organiser quelque chose qu'ils ont vraiment adoré avec moi. Donc, j'ai pu la travailler avec lui à l'occasion d'une masterclass dans l'académie. Et puis, c'était vraiment très. C'est fou, parce que je pense qu'il avait 90 ans et une connaissance de la partition. Enfin, j'étais vraiment bluffé. Et puis, toujours des. Enfin, voilà, ce violon qui parle, l'expression. Enfin, non, c'était vraiment très. Ça m'a beaucoup apporté, cette Académie d'Ozawa, et en particulier ces masterclass, c'était vraiment le grand moment, avec bien sûr Ozawa qui dirigeait l'orchestre. Enfin, ça, c'était aussi de grands moments de musique, mais ça reste et ça rentre. C'est vraiment, on prend des grandes personnalités comme ça, je ne pourrais pas vous dire, il y a telle mesure ou ça, mais ça, on a l'impression que ça rentre et ça nourrit notre sang, notre façon de penser la musique.
Le grand dit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston?
Je vais aller faire la révolution.
Mais ça plus dit bon sang, je te donne pour le temps, bah, assez d'argent.
Contre la société de consommation, je vais aller faire la révolution.
Oui, la révolution Évariste Galois nous poursuit dans cette émission. Évariste Galois, si vous ne le connaissez pas, franchement, de votre côté du poste, précipitez-vous. Connaissez-vous l'animal qui inventa le calcul intégral? C'était au tout début de l'émission du Parti d'en jouer avec vous, Julien Zulman. La révolution, c'est plutôt en fait la révolution des sentiments pour un musicien. Le déclic dont vous me parliez, des souvenirs, des choses que vous intégrez presque corporellement. Et alors, parmi ces révolutions, vous m'avez dit avoir eu un déclic très fort, un déclic orchestral, puisque donc vous parliez du fait que vous étiez violon solo aujourd'hui à l'Orchestre National des Pays de la Loire, voilà. Depuis 2 ans, c'est ça?
Depuis un an.
Depuis un an.
Un peu plus d'un an maintenant.
Voilà, et que donc un de ces déclics orchestraux, on va dire, c'est vous avez 20 ans, vous allez écouter des amis.
Voilà, donc j'avais des amis qui participaient à l'Orchestre Malheur, qui étaient partis en tournée, puis ils viennent à Paris, et donc... C'était d'abord pour voir ses amis qui étaient partis depuis longtemps en tournée. Donc, c'était la quatrième de Mahler et Claudio Abbado. Je dois dire qu'avant, j'avais quand même une vision très violonistique des choses, c'est-à-dire que j'allais écouter principalement les violonistes en concert. Et avant l'Académie d'Ozawa, où là, j'ai aussi vraiment perçu le travail orchestral et qu'est-ce que musicalement, on était plus fort à plusieurs que tout seul. Là, j'ai vraiment un déclic, mais ouais, c'était peut-être d'abord aussi cette musique-là, c'est-à-dire que voir que tout c'était tout ce grand orchestre avec en plus une voix qui arrivait à une émotion peut-être plus haute que j'avais en écoutant les concertos pour violon. Ça avait vraiment été quelque chose de déjà voilà, de corporel, et en même temps après ça m'a beaucoup travaillé, puis c'était un grand plaisir de découvrir ça. Après ça m'a mené à une réflexion aussi de votre musique de chambre, plus de partager, et puis de après les souvenirs de concerts avec ces joueurs où là j'étais vraiment partie prenante parce qu'on était dans l'orchestre, et les souvenirs de concerts au théâtre des Champs-Élysées où vraiment il y avait un son et une énergie, une émotion qui se dégageait que tout seul je ne ressentais pas aussi fortement.
Schuss und Voll sind uns bereit. dabei, sondern was nach etwa kommen alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen. Dort läuft's schon seit Peter mit den Zungen zum himmlischen Weihrauch hinein.
Le final de la quatrième symphonie de Gustav Mahler. Nous jouissons des joies célestes sur le texte des Knaben Wunderhorn avec René Fleming, Claudio Abbado, le philharmonique de Berlin. Et alors, bon, c'est quand même assez magnifique. Ça, c'est un choc que vous avez quand vous avez 20 ans. Vous intégrez donc l'Orchestre National des Pays de la Loire, Julien Zulman. Et c'est vrai que dans ce texte-là, en l'ayant sous les yeux, on a vraiment c'est la définition en fait de ce que c'est qu'un ange. Un ange n'est pas fait pour intercéder auprès d'un dieu ou de dieu pour défendre une cause humaine, terrestre, mais c'est le fait d'être toujours à cheval entre le terrestre et puis le spirituel, hein, le haut et le bas. Et on pourrait dire que c'est une bonne définition du musicien, mais alors rapportée à la condition d'être musicien aujourd'hui, donc au fait que vous êtes violon solo dans un orchestre, que vous jouez par ailleurs dans des récitals, comment vous concevez aujourd'hui votre métier dans cet équilibre des différentes activités?
Bah, disons que je suis d'abord très heureux d'avoir une possibilité assez de faire vraiment énormément de choses. C'est-à-dire là, au sein de l'orchestre, je me sens vraiment très privilégié d'avoir ce poste parce qu'on a vraiment j'ai vraiment des collègues adorables et bons musiciens. Et puis, ça me permet de faire à la fois de la musique de chambre, on fait des opéras, on fait des grandes formations symphoniques et des grandes symphonies. On fait aussi des plus petites formations. Enfin, on a déjà. Cet orchestre-là en particulier permet vraiment de toucher à beaucoup de répertoires et à beaucoup de formations symphoniques différentes. Et en plus, j'ai la chance de faire de la musique de chambre avec des très bons amis comme François, avec Virginie au sein du trio Élégiaque. En plus, des fois, quelques concerts en soliste. Enfin, et donc, ça permet vraiment de toucher beaucoup de choses. Et cet enrichissement permanent, en fait, de chaque activité enrichi. Moi, j'ai passé donc plus d'un an au sein de l'orchestre. Et c'est vraiment, musicalement, c'est un grand enrichissement de voir comment chaque instrument s'insère dans une volonté du compositeur, dire pourquoi là il met un corps. Enfin, c'est vraiment, en plus j'aime bien préparer vraiment le travail de l'orchestre avec le conducteur, de voir comment ça se passe. Donc c'est vraiment très très enrichissant. Puis d'être au contact
de la jubilation et la jouissance de la construction.
Oui, c'est vraiment.
On a vraiment l'impression. Alors Julien, peut-être, je ne sais pas si vous pratiquez encore un peu les mathématiques aujourd'hui, de près ou de loin. Oui, c'est le cas
Non, de très loin. Disons que comme mon père est quand même professeur de mathématiques, on en parle un peu, mais disons que ça c'est comme le violon, ça demande quand même un entraînement physique et mental. Il faut faire ses gammes, c'est très longtemps que je n'ai pas fait de gamme. Donc,
Alors, est-ce que vous auriez une équation de ce qu'on appelle chez un musicien sa musicalité, ou voir son... Enfin, ces drôles de choses qu'on appelle musicalité, ce serait quoi l'équation? C'est, les dons non acquis multipliés par le travail, divisés par une sensibilité et une oreille, l'inné divisé par l'acquis multiplié par la passion.
C'est bien compliqué.
Non, tout ça, rapporté à ce qu'on va entendre, le Kammerkonzert de Berg par Tetzlaff, qui est en fait à l'opposé d'une vision, on va dire, analytique dans l'interprétation.
Par Ferras, alors, dans ce cas-là. Oui, disons que... Oui, c'est-à-dire qu'il faut prendre le texte du compositeur et après réussir à en sortir. Parce que c'est quand même le dogme qui est le dogme de la partition. Enfin, c'est comme si on a quelque chose, un objet en trois dimensions qui est projeté sur la partition en deux dimensions. Et nous, on va créer un nouvel objet en trois dimensions à partir de cette deuxième dimension. Donc il faut essayer, comme on ne connaît pas l'objet au départ, qu'on s'éloigne le moins possible de l'objet. Mais comme on n'a pas... Enfin voilà, c'est un peu comme ça que je le vois, mais c'est pas vraiment une équation, mais pour faire des parallèles mathématiques, voilà, ça serait une sorte.
L'adagio, le deuxième mouvement du Kammerkonzert pour piano, violon et 13 instruments d'Alban Berg, version mythique. Christian Ferras, Pierre Barbizet, l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire Georges Prêtre, 1962. Alors on s'est dit, voilà, qu'on a un texte musical et qu'avec des notations extrêmement précises...
Voilà, puis en plus, cette œuvre de Berg, en plus, c'est très très... par rapport au musicien que je suis, c'est très intéressant parce que c'est construit comme un palindrome, ce deuxième mouvement. Enfin bon, c'est très très construit. Le premier mouvement, c'est que des variations avec 30 mesures. Enfin, le nombre est fondamental dans toute l'œuvre. Et Berg adorait ce genre de choses. Et en même temps, donc là, Ferras, qui, à mon avis, n'était quand même pas un analyste réputé, il arrive à tirer une expression de ces séries de 12 sons. Pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est l'idéal, c'est-à-dire de partir avec quelque chose qui est écrit, pensé, incroyable. Enfin, il a passé quand même 2 ans de sa vie à construire cette œuvre, et un cerveau aussi incroyable que celui de Berg. Et là, Ferras l'interprète, je pense inconsciemment, on a la structure en soi.
Oui, mais c'est l'instinct.
Et c'est vraiment l'instinct et qui arrive pour moi dans la plus belle version. Alors, bien sûr, il y a des problèmes de mise en place un peu partout, mais au final, le message est nettement plus profond. Moi, je devais jouer cette œuvre à Berlin pour la fin de mon cursus et je comprenais un peu rien. Et en écoutant cette version-là, ça m'est apparu.
Alors, on parlait de mondes imaginaires en début d'émission. Est-ce que vous en avez qui sortent de la musique classique pour finir ce parti d'en jouer, Julien Zulman?
Alors, pour finir, oui, moi, je voulais quand même. Alors, pour des raisons personnelles, je suis très attaché à la Corée. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Et puis, c'est vraiment un pays... que j'apprécie beaucoup, et puis la culture qui est très peu connue en fait en France, et c'est vraiment une grande tendresse et une grande passion pour ce pays que je découvre de plus en plus. Donc voilà, je voulais faire entendre une chanson traditionnelle coréenne par Yoo-Sun.
Un grand merci à vous, Julien Zulman.
Hang 낭채를 푸 ucho due anina wa.
De Yusuna pour refermer ce Parti d'Enjoué avec vous, Julien Zulman, un très très grand merci. La Dream Team du Parti d'Enjoué, c'est Eric Lancien à la réalisation, Jean-René Bonissant à la préparation avec aujourd'hui à la prise de son et au mixage, Claude Niort, merci à eux. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission et puis merci pour vos mails que je transfère aux invités. Bon dimanche soir à l'écoute de France Musique, un dimanche soir que vous poursuivez comme si vous y étiez avec Jérémy Rousseau. Bonsoir Jérémy.